Voilà, bonjour frères et sœurs.
Bonjour.
Bonjour frères et sœurs.
Bonjour.
Je m'inquiète parce que je vois que vous avez pas mal chanté, en tout cas merci Seigneur pour ces temps de louange et de reconnaissance envers lui. Je vous invite ce matin à faire deux lectures, nous en ferons après dans la suite de la prédication. La première se trouve dans le premier livre des Rois, chapitre 17 et le verset 1. La seconde, dans le premier livre des Rois, chapitre 18, et le verset 1. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galaad, dit à Akab, « L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. » Chapitre 10, verset 1. Bien des jours s'écoulèrent, et la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Élie dans la troisième année. Va, présente-toi devant Akab, et je ferai tomber de la pluie sur la face du sol. Amen. Plus de 3 ans et demi s'étaient écoulés entre ces deux annonces, la première, chapitre 17, verset 1, et la seconde, chapitre 18. La première fois, comme nous l'avons lu, c'était pour prévenir de l'arrivée d'une grande sécheresse qui apporterait dans le pays d'Israël une famine importante. À cette époque, sur le plan spirituel, le culte de l'Éternel était abandonné. Les prophètes étaient pourchassés et tués. Élie sera d'ailleurs l'un des seuls rescapés. Mais Élie, durant tout ce temps-là, pendant ces 3 ans et 6 mois, eh bien, sera caché par Dieu auprès d'un torrent, où là, matin et soir, eh bien, il sera nourri. Plus tard, Dieu l'enverra chez cette veuve de Sarepta, je ne sais pas si vous avez souvenance, et là, il fera un miracle, il multipliera l'huile et la farine de cette pauvre veuve suffisamment jusqu'au retour de la pluie. Et c'est à l'issue de cette période que Dieu, chapitre 18, verset 1, envoyait de nouveau Élie pour annoncer cette fois-ci la venue de la pluie. Le prophète, comme nous l'avons lu ici, rencontrait le roi Akab et annonçait à ce dernier qu'il était responsable, lui, le roi, ainsi que la maison de son père, de cette situation catastrophique, en particulier de la sécheresse et du reste. Pourquoi ? Parce que selon Élie, ils avaient abandonné les commandements de l'Éternel pour aller vers les Baals, les idoles. Dieu n'avait-il pas dit, bien auparavant, par l'intermédiaire de Moïse, au peuple d'Israël, « Gardez-vous de laisser votre cœur, de vous détourner, de servir d'autres dieux et de vous prosterner devant eux. La colère de l'Éternel s'enflammerait alors contre vous. Il fermerait les cieux et il n'y aurait point de pluie. La terre, ne donnerait plus ses produits et vous péririez promptement dans le bon pays que l'Éternel vous donne. » On voit qu'ici, comme dans d'autres textes, notamment du Deutéronome, que la bénédiction, bien évidemment, était liée à l'obéissance. À l'époque qui nous intéresse ici, la Bible nous dit, au chapitre 16, que le roi Akab fit ce qui est mal aux yeux de Dieu plus que tous ceux qui avaient été avant lui. Nous le savons, il généralisa en Israël les cultes de Baal et d'Astarté sous l'influence de sa femme, la tristement célèbre, je ne suis pas misogyne, hein, Jézabel. On en parle même dans le livre de l'Apocalypse. En Canaan, les deux divinités étaient apparentées. Le premier Baal était le dieu de l'orage, maître de la pluie et des éclairs, selon eux, bien évidemment, donc de la fertilité. Astarté, quant à elle, était la déesse de l'amour et de la guerre, elle incarnait la fécondité. Le culte qui lui était rendu était caractérisé principalement par la sensualité et comprenait aussi, impliquait la prostitution sacrée. La divination aussi y était pratiquée. C'est pour nous dire à quel point, quelle était la situation dans laquelle, eh bien, se trouvait le peuple d'Israël à cette époque. Donc la reine Jézabel, comme nous le dirons un peu plus loin, entretenait de nombreux prêtres, 850, hein, 400 prophètes de Baal, 450 prophètes d'Astarté ou inversement, qui eux veillaient au maintien du culte et à sa propagation. Donc en fin de compte, on va dire que sur le plan spirituel ici, tout était verrouillé. En tout cas, comme vous le savez, l'histoire biblique nous rappelle que ce fut principalement, eh bien, à cause de l'idolâtrie, hein, que le peuple de Dieu dans son ensemble, nous le verrons un peu plus en détail après, eh bien, fut déporté en captivité. Le premier chez les Assyriens et le second chez les Babyloniens. L'idolâtrie. Mais je crois, frères et sœurs, que l'idolâtrie reste encore présente aujourd'hui, même si elle n'a pas le même aspect, la même apparence, et elle se manifeste de manière beaucoup plus subtile, beaucoup plus cachée, pourrait-on dire. Car une idole, ce n'est pas seulement, même si on a toujours gardé cela à l'esprit, une représentation religieuse ou autre que l'on vénère. C'est en fait plus que cela. C'est en définitive tout ce qui peut usurper, prendre la place de Dieu, qui peut remettre en question sa seigneurie dans notre vie. Il peut même s'agir, malheureusement, de choses tout à fait légitimes en elles-mêmes. Peut-être des séministes, on verra plus tard. En tout cas, en Exode 20, dans le livre, alors dans les 10 commandements, Dieu se présente comme un Dieu jaloux lorsqu'il ordonne, hein, c'est le premier des 10 commandements, de ne pas se prosterner devant les idoles, de ne pas s'en faire, ni de se prosterner devant elles, et de ne pas les servir, car je suis un Dieu jaloux, dit-il. Alors bien évidemment, le terme jaloux ici, ce n'est pas dans le sens où nous l'entendons nous-mêmes, hein, avec nos limitations, nos imperfections, notre nature pécheresse. Hein. On donne à Dieu des sentiments, et ils ne sont pas les mêmes que nous, bien évidemment. Je pense qu'ici, le terme jaloux est à comprendre comme celui d'exclusif. Notre Dieu, celui que nous adorons, celui que nous aimons, celui que nous voulons servir, doit être exclusif dans notre vie. C'est dans ce sens-là, eh bien, qu'il faut comprendre le terme jaloux. Pourquoi ? Parce que le Seigneur ne tolère aucun partage dans notre vie. Quelqu'un a dit un jour, peut-être que vous connaissez cette citation, j'ai entendu il y a très longtemps, si le Seigneur n'est pas le Seigneur de tout, il n'est pas le Seigneur du tout. Attends, on va avec raison, je sais. En tout cas, dans un tel climat d'apostasie, il était nécessaire que Dieu intervienne de manière assez forte. Cette apostasie qui est avant tout l'abandon de la foi. Car le peuple, comme nous l'avons évoqué tout à l'heure, dans son ensemble, s'était détourné de lui, le Dieu vivant et vrai, pour se tourner vers des idoles muettes. L'apostasie consisterait peut-être aujourd'hui à remettre en question une expérience vécue avec Dieu. Une véritable, une belle expérience avec Dieu. À rejeter volontairement les lumières reçues de la part de Dieu, principalement pour ce qui concerne la divinité du Christ et la valeur expiatoire de son sacrifice à la croix. De le tenir quasiment comme profane. Apostasier, c'est donc tourner le dos au Seigneur de manière consciente et délibérée. C'est grave. Abandonner Dieu. Mais comment, au regard de nos expériences respectives, comment cela est-il possible? Ça peut arriver. Nous sommes parfois surpris, j'entends ici et là, d'entendre qu'un certain nombre de personnes sont retournées dans le monde. Mais depuis que l'Église existe, ça s'est toujours passé. Hein. Paul dit, voilà, Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent, etc. Après avoir entendu pendant des années la parole de Dieu et marché, comme on dit chez nous, selon les expressions consacrées, avec le Seigneur. On s'est posé la question de savoir si elles avaient fait une véritable expérience de conversion à Dieu, si elles s'étaient vraiment repenties et où elles, si véritablement elles étaient nées de nouveau. Plus grave encore, c'est qu'un certain nombre d'entre elles pensaient être au Seigneur, alors qu'en réalité, elles ne l'ont jamais été. Alors pour quelles raisons? On peut évoquer un certain nombre de raisons, particulièrement par rapport à cette catégorie de personnes pour lesquelles nous devons prier, bien évidemment, aimer et accueillir dans le Seigneur. Elles avaient entendu certainement un autre évangile. C'est ce qui ressort un petit peu, on voit, sur la part de la plupart des hommes de Dieu, des théologiens, un évangile qui était autre, étranger au véritable évangile. C'est-à-dire qu'il était complètement dépouillé du message de la croix, dépouillé du message de la repentance, de la nécessité, de l'expérience de la nouvelle naissance, de la marche du croyant dans la sainteté et dans l'obéissance à Dieu. Cet évangile, et on l'entend autour de nous, hein, je pense que vous allez être rapidement clair sur cette question, leur annonçait qu'il suffisait de venir à Jésus pour que tous leurs problèmes soient résolus et que tout irait bien dans le meilleur des mondes. Et bien évidemment, avec la clé, hein, c'est la cerise sur le gâteau, la santé et la richesse assurées. Je ne sais pas, vous voyez ces choses de cette manière ? Mais évidemment, lorsque nous venons au Seigneur, nous avons des problèmes, nous sommes dans telle ou telle situation, le Seigneur est là pour nous aider, pour nous restaurer, pour nous relever, pour nous bénir, pour nous accorder sa grâce, bien évidemment. On a l'impression ici, dans cette fameuse théologie, que Dieu c'est en fait un distributeur de bénédictions. Et vous avez vu comment ça se passe ? Parfois, dans tel ou tel endroit, on est dans un hangar, ou on est ailleurs, dans les séminaires ou quoi que ce soit, on vient voir un distributeur, on met une pièce pour le café, et mince, ça ne marche plus. Hein ? Et qu'est-ce qu'on fait ? Un petit peu contrarié, surtout si on est un petit peu pressé, ou pas, bien évidemment. Et puis on va chercher ailleurs. Et à certaines personnes, c'est un peu ça. Parce que c'est comme ça qu'on leur a présenté Dieu. Un distributeur de bénédictions. J'exagère, je force le trait à souhait, mes frères et sœurs. On ne leur avait pas annoncé le véritable évangile. Il y a aussi une autre expression, là je m'excuse, hein, frères et sœurs, hyper consacrée, qui peut parfois prêter à confusion. Hein ? Alors, je ne sais pas si vous allez être d'accord avec moi. Hein ? Qui veut accepter Jésus-Christ dans son cœur ? Qui veut accepter Jésus dans sa vie ? Cette expression n'est pas mauvaise en soi, mais elle peut parfois prêter à confusion. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou pas ?
Oui.
Pourquoi ? Parce qu'on a parfois l'impression, en entendant certains, que c'est le pécheur qui, en acceptant Jésus-Christ dans son cœur, ou en acceptant Jésus-Christ dans sa vie, il fait une faveur à Dieu. Ah oui, je lui fais une faveur. Je l'ai accepté. Hein ? J'accepte, voilà. Bien évidemment, on doit accepter le sacrifice de Jésus à la croix pour nos péchés. Mais souvenons-nous, frères et sœurs, que c'est Dieu qui nous a acceptés en Jésus-Christ et grâce à son sacrifice à la croix pour nos péchés. Et nous devons faire attention avec nos petites terminologies, nos petits patois de permanence, nos petites habitudes qui ne sont pas mauvaises en soi, mais qui peuvent parfois eh bien, nous jouer des tours. Alors bien évidemment, il y a d'autres personnes, et ça, ça existe de tout temps, qui ont cependant entendu la bonne parole, le bon évangile, mais qui ont quand même, selon l'expression de Paul, eh bien, fait naufrage quant à la foi. Pour des raisons diverses, découragement, fatigue physique, une fatigue psychologique, la maladie, l'épreuve de toutes sortes, etc. Les conflits dans l'église, l'amertume qui a surgi dans le cœur, je ne sais. On pourrait évoquer beaucoup de choses. Vous avez peut-être des exemples à l'esprit. Nous devons prier pour ces frères et sœurs. Nous devons les aimer. Afin que Dieu, eh bien, un jour, puisse les ramener à la maison. Parce que c'est là leur place, avec nous. Comme pour les premiers d'ailleurs. Alors, ce que nous devons nous rappeler, bien évidemment, c'est que notre Père Céleste est tellement bon. Vous êtes d'accord avec moi ? C'est un Dieu qui est bon, fidèle, un Dieu merveilleux.
Amen.
Et Seigneur pourvoit tous nos besoins. Je ne me contredis pas par rapport à ce que j'ai dit auparavant, vous l'aurez compris. Hein ? Il y a tellement de promesses de bénédiction. Hein, le psaume 37 ou 34:7, « Fais de l'éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. » Le Seigneur Jésus, lorsqu'il enseigne dans le sermon sur la montagne, pour parler du manger et du boire, il leur dit, mais ne vous inquiétez de rien, de ce que vous mangerez, de ce que vous serez vêtus. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni les moissonnent, et pourtant Dieu les nourrit. Considérez les lys de champs, et regardez même Salomon dans toute sa gloire, n'a pas été revêtu comme l'un d'eux. Il n'y fit ni notice. Et regardez de quelle manière Dieu les a revêtus. Et ce qui est merveilleux dans ce discours du serment sur la montagne, dans le chapitre 6, lorsque Jésus dit ceci, « Votre Père céleste sait ce dont vous avez besoin. » Frères et sœurs, Dieu sait ce dont vous avez besoin. Et il donnera toujours en fonction de ce dont nous avons besoin. Pas nécessairement ce que nous voulons, parfois un peu comme des gosses capricieux, mais ce dont nous avons besoin. Toute grâce excellente, dit Jacques, et tout don parfait viennent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Trois promesses parmi toutes les promesses que Dieu met à notre disposition. Oui, Dieu est bon, Dieu est fidèle, Dieu est merveilleux, il prend soin de nous. Il faut nous rappeler que si le Seigneur Jésus a promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde, frères et sœurs, et c'est là que parfois on se trompe, il ne nous a pas promis pour autant que nous serions épargnés des difficultés et des épreuves de la vie, et bien au contraire. Je me rappelle ma petite mère, vous pouvez partir auprès du Seigneur aujourd'hui, je me suis converti et j'avais des épreuves, mes premiers pas dans la foi, elle m'a dit, mon fils, mais depuis que tu es dans la religion, tu n'arrêtes pas d'avoir des problèmes. Je lui ai dit, écoute, c'est pas dans la religion, Jésus vit dans ma vie, il a transformé ma vie. Et c'est vrai que j'ai commencé à découvrir quels étaient les premiers pas dans la vie chrétienne avec les épreuves. Alors, revenons à notre texte. La Bible nous apprend qu'après sa rencontre avec le roi, Élie lui demandera de convoquer tout le peuple et tous les prophètes sur le mont Carmel. Et là, je fais la lecture, 1 Roi, chapitre 18, versets 20 à 40. Achab envoya des messagers vers tous les enfants d'Israël, et il rassembla les prophètes à la montagne du Carmel. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, « Jusqu'à quand boiterez-vous des deux côtés ?» Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Le peuple ne lui répondit rien. Et Élie dit au peuple, « Je suis resté seul des prophètes de l'Éternel, et il y a 450 prophètes de Baal. » Les 400 prophètes d'Astarté n'étaient pas là. « Que l'on nous donne deux taureaux, qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux. » Qu'ils le coupent par morceaux et qu'ils le placent sur le bois, sans y mettre le feu. Et moi, je préparerai l'autre taureau et je le placerai sur le bois sans y mettre le feu. Puis invoquez le nom de votre Dieu et moi, j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Et tout le peuple répondit en disant, c'est bien. Et lui, il les amène sur leur propre terrain, puisqu'ils servaient une divinité qui était la divinité de l'orage, des éclairs, du tonnerre et de la pluie. Il fallait à tout prix qu'ils répondent. Le peuple répondit en disant, c'est bien. Et Élie dit au prophète de Baal, choisissez pour vous l'un des taureaux. Préparez-les en premier, car vous êtes les plus nombreux. Et invoquez le nom de votre Dieu, mais ne mettez pas le feu. Ils prirent le taureau qu'on leur donna, et le préparèrent, et ils invoquèrent le nom de Baal, depuis le matin jusqu'à midi, en disant, Baal, réponds-nous. On peut s'imaginer un petit peu la scène, hein. Mais ils n'eurent ni voix ni réponse, et ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. À midi, Élie se moqua d'eux et dit, « Crie à haute voix, puisqu'il est Dieu. Il pense à quelque chose, ou il est occupé, ou il est en voyage. Peut-être qu'il dort, et il se réveillera. » Et ils crièrent encore à haute voix, et ils se firent, selon leur coutume, des incisions avec des épées, avec des lances, jusqu'à ce que le sang coule sur eux. On s'imagine un petit peu la scène, ce qui se passe. Toute la multitude des milliers du peuple d'Israël, les 450 prophètes de Baal, Élie est tout seul en face. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande, mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Élie dit alors à tout le peuple, « Approchez-vous de moi !» Tout le peuple s'approcha de lui, et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus, des fils de Jacob, auxquels l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Et il bâtit avec ces pierres un autel, au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Cultivez toujours. Rendre en détail, c'est important. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Il dit, faites-le une deuxième fois, et ils le firent une deuxième fois. Il dit, faites-le une troisième fois, et ils le firent une troisième fois. L'eau coula autour de l'autel et l'on remplit aussitôt le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac, et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi qui es Dieu et que c'est toi qui ramène leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba et consuma l'Holocauste, le bois, les pierres et la terre. Et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur face et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Alors on le voit à la suite du récit, nous apprend de quelle manière les faux prophètes ont terminé. Élie, dans les premiers mots qu'il adresse au peuple, à cette multitude, va donc le mettre en demeure de choisir entre le Dieu vivant et vrai et les idoles. Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Le moment était venu, d'être promis ce matin, de choisir véritablement leur camp. Et ces paroles, c'est intéressant, elles font écho à celles de Josué prononcées bien auparavant, alors qu'il s'adressait au peuple d'Israël à la veille de leur entrée dans le pays de Canaan. La terre promise, cette terre qui suscite aujourd'hui tant de violence et de souffrance. Josué leur avait donné ce choix en disant, « Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. » Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Et lui, en tout cas, il a exprimé son choix en disant, « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Le Seigneur n'avait-il pas dit aussi, notamment dans l'Évangile selon Matthieu, que l'on ne pouvait pas servir de maître? C'était impossible. Car, dit-il, il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Le peuple d'Israël, le privilège du peuple d'Israël, avait été, tout le long de son histoire, selon l'apôtre Paul, de recevoir de la part de Dieu l'adoption filiale, la gloire, les alliances, la loi, le culte, les promesses, c'est ce que Paul rappelle lorsqu'il écrit aux Romains au chapitre 9. Ce peuple-là, qui était appelé à être au service du Dieu vivant et vrai, et à être la lumière des nations, eh bien le voilà réduit à n'être plus que l'ombre de lui-même. La suite du récit nous apprend, que nous n'avons pas lu plus loin, que la pluie annoncée par le prophète allait tomber. Cette pluie promise par Dieu allait tomber. Mais il a d'abord fallu pour cela que certaines conditions soient remplies. Après l'intervention des prophètes de Baal, Élie entre donc en scène. Qu'est-ce qu'il fait? Nous l'avons lu, je le rappelle ici. Il fait particulièrement trois choses, des choses simples mais combien importantes. Il rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il plaça le sacrifice sur l'autel. Et il invoqua tout simplement Dieu. Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Et il prit pour cela 12 pierres, ce n'est pas de manière anodine, hein, c'est important ici, car ces pierres symbolisaient, représentaient les 12 tribus d'Israël. Il faut se rappeler que, qu'après la mort du roi Salomon et à cause de sa désobéissance, hein, l'histoire biblique nous rappelle malheureusement que Salomon, à la fin de sa vie, s'était détourné de Dieu, lui qui avait reçu tellement de bénédictions, en introduisant l'idolâtrie et en la pratiquant malheureusement. Eh bien, suite à son comportement, il y a eu un schisme au milieu du royaume d'Israël. Suite à cela, l'unité fut brisée et le pays partagé en deux. Et parfois, il suffit peu de choses pour que tout un peuple se sépare, tout un peuple se divise. Simplement le comportement d'un homme, mauvais en l'occurrence. Le pays fut partagé en deux avec au nord les 10 tribus, représentées par le Éphraïm en particulier, et au sud, eh bien, la tribu de Juda et de Benjamin. Frères et sœurs, l'unité ici, dans notre vie spirituelle, dans l'Église, est une chose très importante. Le diable le sait et il mettra tout en œuvre pour apporter dans le milieu la division. Il suffit de regarder autour de nous. On a peine d'aller bien loin ici dans la région. Combien de communautés divisées? Suite à des comportements de tel ou de tel, suite à des enseignements, suite à des pratiques, je ne sais pas, je ne suis pas du tout dans le jugement. Au contraire. Hein, c'est au contraire. Je compatis. Mais l'unité parfois est mise à mal. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la plupart du temps, elle débouche sur la division. Donc la division, frères et sœurs, est une des armes les plus puissantes que l'ennemi va utiliser. Sachons-le. Notre ennemi a juré notre perte. Même s'il est déjà vaincu, ça aussi, il faut être clair là-dessus, est limité par Dieu dans son action. Mais il utilise autre chose. Mais dans son acharnement en voulant nous détruire et nous détourner de Dieu, il utilise tout l'arsenal qu'il a à sa disposition. En plus de la division, il utilise également l'oppression, sous toutes ses formes, la persécution bien évidemment aussi, l'accusation et enfin la séduction. L'autel dans le Proche-Orient ancien, en dehors du peuple d'Israël bien évidemment, mais comme nous le voyons aussi dans les Écritures, était le moyen par lequel le croyant ou l'adorateur pouvait invoquer Dieu, entrer en communion avec lui. Dans une relation d'alliance, comme ce fut le cas pour Noé et Abraham, et bien évidemment aussi du temps de Moïse. Et tout cela se faisait toujours par l'intermédiaire d'un sacrifice offert. Rétablir l'autel ici, comme aux yeux de tous, comme l'a fait Élie, c'était de remettre à la place qui lui revenait de droit au sein du peuple d'Israël. Ce fut donc la première chose, vous comprenez un peu plus loin pourquoi je dis tout ça. Ce fut donc la première chose qu'il a faite pour permettre ensuite à Dieu d'intervenir. Il est intéressant aussi de faire un petit retour en arrière, en lien avec le livre d'Esdras, Esdras, Néhémie, Esther, etc. Et là, la Bible nous apprend que Esdras reviendra au sein du pays d'Israël après 70 ans de captivité avec une partie importante du peuple d'Israël. Mais en arrivant dans le pays d'Israël, ils virent que la ville et les murailles qui la protégeaient, le temple et l'autel avaient été complètement détruits. Et là, il y avait devant leurs yeux un vaste chantier. Mais la Bible nous précise qu'Esdras rétablit d'abord l'autel sur ses fondements pour y offrir les sacrifices malgré la menace des peuples alentour. Est-ce que vous êtes en train de comprendre ce que je suis en train de vous dire? Tout est dévasté. Il y a l'autel, le temple est dévasté, il y a la ville et il y a les murailles. Et c'est vrai qu'il est tout logiquement, la première chose que nous aurions faite, c'était de retaper un petit peu les murailles pour nous protéger. Les attaques de l'ennemi était dehors, breton, menaçant. Mais la première chose qu'il fut, eh bien, c'est de rétablir l'autel sur ses fondements. Ce fut tellement important pour lui et pour tout le peuple qu'il le fit même avant la reconstruction du temple et des murailles de la ville de Jérusalem. La relation avec Dieu, qui était symbolisée par l'autel, était tellement importante qu'elle passait avant leur propre sécurité. Qu'a fait Élie en second lieu? Il a placé le sacrifice sur l'autel. Dans le cadre de la loi de Dieu, que Dieu avait donnée à Moïse, la loi mosaïque, il y avait des consignes particulières concernant les sacrifices que le peuple devait lui offrir. Il s'agissait d'animaux purs, c'est-à-dire selon Dieu propre au sacrifice, et qui devaient être sans défaut, que ce soit les taureaux, le bélier, que ce soit les tourterelles, donc c'était en fonction des moyens de celui qui offrait le sacrifice, bien évidemment, mais aussi en fonction de la gravité de la faute. En tout cas, ces animaux qui étaient offerts en sacrifice devaient être sélectionnés parmi les plus belles bêtes. Ils constituaient donc ainsi les sacrifices agréables à l'Éternel. Pourtant, au cours de son histoire, le peuple d'Israël n'a pas toujours respecté ces consignes. Dieu lui reprochera un jour par le prophète Malachi de ne pas l'honorer. Pourquoi? Parce que certains parmi le peuple gardaient pour eux les meilleures bêtes et n'offraient à l'Éternel que des bêtes aveugles, je cite, des bêtes boiteuses ou infirmes. Voilà ce qu'ils offraient à Dieu. Et ce que Dieu leur reproche aussi, c'est que ce qu'ils font vis-à-vis de lui, ils ne l'auraient pas fait vis-à-vis des autorités de ce monde. L'apôtre Paul, lorsqu'il écrit aux Corinthiens, aux chrétiens de Rome, pour évoquer leur consécration à Dieu, utilise lui aussi l'image du sacrifice. Donc c'est un texte que nous connaissons bien. Romains chapitre 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères et sœurs, bien évidemment, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Les chrétiens ici, comme nous aujourd'hui, bien évidemment, sont exhortés à offrir leur corps de manière totale et volontaire. Leur vie, bien évidemment, et tout ce qui s'y rapporte, lui donner ce qu'ils avaient, ce que nous avons de meilleur. En fait, nous ne ferons que lui restituer, ce que Dieu nous a donné dans sa grâce. Nous devons donc offrir au Seigneur ce que nous avons de meilleur. Et peut-être, frères et sœurs, jalousement gardé pour nous jusqu'à présent. Ces choses qui sont importantes pour nous et qui occupent peut-être la première place dans notre vie. Nos enfants, on n'y a pas pensé à ça. Les avons-nous confiés, donnés au Seigneur, comme ce fut le cas pour Anne, la mère du petit Samuel, vous vous souvenez? Cet enfant, le petit Samuel, était l'exaucement d'une prière alors qu'elle était stérile. Elle avait demandé à Dieu de le garder jusqu'à temps qu'il soit sevré, et ensuite elle va le laisser, elle va le donner, elle va le prêter à l'Éternel. Notre temps, bien-aimé, combien de temps consacrons-nous au Seigneur? Quelle place Dieu occupe-t-il au milieu de la multitude de nos occupations, nos journées chargées, voire parfois surmenées? Peu de temps pour lui ou pas du tout? Je pense qu'il y a certainement la possibilité d'aménager du temps, de lui consacrer davantage, et notamment aussi à son œuvre. Nos moyens matériels, alors là on touche à ce qui n'est pas touché, et particulièrement la question de l'argent, sur la liste. Les amendements, enfin tout ce que Dieu nous a donné dans sa grâce, les moyens matériels, que ce soit l'argent, le travail, que ce soit la maison, le véhicule, etc., tout ce que nous avons. Les amendements consacrés au Seigneur, mis à sa disposition pour son œuvre, mais qui sont à sa disposition pour lui. Je crois que nous devons investir au bon endroit, c'est-à-dire pour l'avancement du royaume de Dieu. Il n'y a ni crise, ni inflation. Au contraire, c'est le meilleur déplacement parce que le taux d'intérêt à y retirer est très élevé. Ce que nous semons aujourd'hui, ça sera à récolter dans l'éternité. On ne le fait pas pour ça, on le fait par amour pour le Seigneur, bien évidemment. En définitive, bien aimé, nous n'avons rien à perdre. Sinon, toujours tout à gagner avec le Seigneur. Élie invoque à Dieu. Après s'être moqué de cette politique des prophètes de Baal, et de l'inexistence de cette fausse divinité, Élie s'adressa à Dieu. Quand les conditions ont été remplies, Élie pria de manière solennelle. Et la Bible nous dit que le feu tomba du ciel, la foudre, consumant non seulement le sacrifice offert, mais aussi le bois, la pierre et la terre. Même toute l'eau qui avait été répandue en grande quantité se volatilisa. Alors Élie était-il un surhomme, un homme super spirituel, pour obtenir ainsi une telle réponse de la part de Dieu? Non, parce que la Bible nous dit le contraire. Jacques nous dit dans son épître que Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve pas, et il ne tomba pas de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, alors le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Élie était tout simplement un homme fidèle qui avait obéi jusqu'à présent à tout ce que Dieu lui avait demandé de faire. Sa prière ici, pleine d'autorité, exprimait sa foi dans ce Dieu qu'il connaissait et qu'il servait. Puissions-nous être des hommes et des femmes de l'Utel Trompe, frères et sœurs. Alors le feu est ainsi tombé en réponse à sa prière, comme venant du Dieu vivant et vrai, vis-à-vis toute cette foule, et face aux idoles muettes, mais aussi comme étant le sceau de son approbation sur le sacrifice. Frères et sœurs, il est nécessaire pour nous, que ce soit dans notre vie au quotidien, familiale, dans notre vie d'église, il est nécessaire d'avoir le sceau de l'approbation de Dieu. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain, dit la parole de Dieu. La Bible nous dit aussi que ce n'est ni par force, ni par puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Et de ce fait-là, nous devons nous rappeler que sans lui, nous ne sommes pas en mesure de faire quoi que ce soit qui soit bien. Quoi que ce soit que nous puissions faire, que ce soit bien aux yeux des hommes, tout cela portera toujours la marque de l'imperfection. Jésus a dit un jour à ses disciples, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est moi qui vous envoie. Et que vous allez, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. » L'apôtre Paul a dit qu'il viendra un temps où le feu du jugement de Dieu révélera, éprouvera chacune de nos œuvres. Le feu aussi, il vient nous parler, bien évidemment, est un des symboles de la personne glorieuse du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit doit, en tout cas, frères et sœurs, doit avoir toute la place dans notre vie, au quotidien, journellement, dans nos familles, ici, lorsque l'Église se rencontre. La suite du récit nous apprend qu'après l'intervention de Dieu et la seconde intercession du prophète Élie, la pluie attendue depuis si longtemps est enfin arrivée. Les conditions ont été remplies, la bénédiction est arrivée. Quelques mots sur la communion avec le Seigneur, c'est ce qu'il est question depuis tout à l'heure dans notre texte. Je dirais, frères et sœurs, qu'après notre conversion, la communion avec lui est ce qui est la chose la plus importante dans notre relation pour un enfant de Dieu. Il ne peut y avoir de vie spirituelle véritable et féconde sans cette communion, sans cette relation particulière avec le Seigneur. Et pour en comprendre l'importance, un petit retour dans le temps est nécessaire. Car comprendre ce que nous avons perdu en Adam, au tout début, nous permettra de mieux comprendre aujourd'hui les privilèges que nous avons en Jésus-Christ. À l'origine, Adam et Ève jouissaient d'une relation, d'une communion merveilleuse avec le Créateur. On a du mal un petit peu à s'imaginer cela. Ils pouvaient communiquer en permanence avec lui, jusqu'au jour où leur péché, cause de la désobéissance, a engendré des conséquences dans leur vie et dans celle de leurs descendants. On voit encore aujourd'hui les conséquences. La plus terrible de ces conséquences fut certainement celle d'être séparé de la présence glorieuse et vivifiante de Dieu. Ils perdirent ainsi ce privilège et furent chassés du jardin d'Éden. Au travers du temps, comme on le voit dans les Écritures, c'est que quelques croyants de l'Ancien Testament ont cependant bénéficié d'une relation privilégiée mais limitée avec lui. On peut penser à Enoch, on peut penser à Abraham, Noé, Moïse, les prophètes, etc. Plus tard, avec l'institution de la loi de Moïse, il sera possible de s'approcher de Dieu. Notamment dans le cadre du tabernacle, dans le temple. Mais seulement, comme nous l'avons évoqué tout à l'heure, par le biais des différents sacrifices demandés pardon à Dieu. Alors ces sacrifices-là, eh bien, montrés par là, la séparation qu'il y avait entre le pécheur et le Dieu trois fois. Alors ce n'est qu'en Jésus-Christ, bien-aimé, et grâce à son sacrifice à la croix, que cette relation, cette communion rompue avec Dieu peut être à nouveau rendue possible. La Bible nous apprend que lorsque le Seigneur Jésus a rendu son dernier souffle à la croix, le voile du temple qui séparait eh bien, le lieu saint du lieu très saint s'est déchiré de haut en bas, montrant par là que c'est Dieu lui-même qui avait opéré cela, montrant par cela que désormais une voie nouvelle était ouverte pour que nous puissions eh bien, avoir accès au Dieu vivant. Alors, rappelons-nous, bien-aimés, qu'autrefois, eh bien, le croyant aussi venait à la tente de la rencontre ou au temple pour s'approcher de Dieu en lui offrant des sacrifices. Car c'est là que l'Éternel manifestait sa glorieuse présence. Aujourd'hui, eh bien, par la nouvelle naissance, en étant devenu enfant du Seigneur, eh bien, c'est nous qui sommes devenus le temple du Saint-Esprit, l'habitation eh bien, de Dieu en esprit. Alors que le Seigneur nous aide à revenir à lui, à travailler cette communion, cette relation, ce lien merveilleux, ce privilège merveilleux qu'il nous a donné en Jésus-Christ. Et je crois que l'illustration la plus belle, eh bien, c'est le Seigneur qui nous la donne, avec l'image du sceptre et des sarments. Vous vous souvenez, dans Luc 15, je crois. Je suis les sceptres et vous êtes les sarments. Et le sceptre, eh bien évidemment, donne la vie aux sarments. Le sarment trouve sa subsistance, trouve sa source dans le sceptre. Il lui permet de se développer, mais aussi le sceptre, eh bien, au travers de sa sève nourricière, eh bien, de pouvoir porter du fruit, du bon fruit. Alors, frères et sœurs, rappelons-nous que, en rapport avec Dieu, tout est de lui, par lui et pour lui. Alors, je ne sais pas ce matin ce qu'il en est de notre communion avec le Seigneur, si elle a été rompue, pour des raisons peut-être que nous, enfin, en tout cas, que nous seuls connaissons. Si c'est le cas, eh bien, il est nécessaire qu'elle soit rétablie, afin que le Seigneur, dans sa grâce, reprenne la place qui lui revient de droit dans nos vies. Mais également, frères et sœurs, pour que nous puissions retrouver la joie de notre salut, la joie de lui appartenir et la joie de le servir. Et pour cela, peut-être, eh bien, il nous faudra revenir à la croix. Amen.